Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser cette semaine avec un titre très simple, Et nos amours. Et nos amours, on aurait envie de dire et nos amours dans tout ça, et l'amour dans tout ça, mais nos amours, ça n'est pas exactement l'amour avec un grand A. Nos amours, ce sont nos amours réels, nos amours humaines, traversées de tensions, traversées de ruptures, traversées de critiques, traversées de défaits dans la société, dans la politique, mais c'est aussi, bien sûr, Apollinaire et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Ce soir, pour la première rencontre sur « Et nos amours », ou autour de « Et nos amours », j'ai le très grand bonheur de recevoir Luc Boltanski, qui est sociologue, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, mais à qui, Luc Boltanski, merci d'être là ce soir, à qui j'ai envie de demander d'abord si, sur l'amour, au-delà du grand livre de sociologie critique, qui a à peu près 30 ans, si je ne me trompe, « L'amour et la justice comme compétence », sur l'amour, Luc Boltanski, vous avez aussi parlé, comme Apollinaire, d'une façon poétique. On sait moins que vous n'êtes pas seulement sociologue, mais que vous êtes poète, et que parmi vos recueils de poésie, il y en a au moins un, mais peut-être plus, dont l'amour est un élément absolument central, Luc Boltanski.
Oui, Frédéric Worms, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de cette conversation que nous allons avoir. Oui, j'ai écrit plusieurs livres de poèmes, et vous savez, aujourd'hui, la poésie est une activité, heureusement, assez loin des médias et même du lectorat, et quand on a une dizaine de lecteurs ou pour un livre de poèmes, de vrais lecteurs, c'est magnifique.
À vous.
Je suis très heureux de vous avoir.
Ah, mais moi, je vous lis aussi sur ce versant-là avec d'ailleurs une très grande admiration et une très très réelle émotion, parce que je pense que vraiment il s'agit de poèmes importants. Mais pourquoi est-ce que vous vous réjouissez du petit nombre de lecteurs, Luc Boltanski? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas mieux quand même s'il y avait un lectorat, une discussion critique forte, vivante?
Ah, je ne m'en réjouis pas.
Ah, vous ne vous en... Parce que vous disiez tant mieux.
C'est un fait.
Vous avez dit tant mieux.
Ah non, c'est tant mieux, disons, quelquefois, quand on entend le brouhaha autour du lancement des livres.
Oui.
On se dit qu'une situation dans laquelle les livres marcherait de même, si je puis dire, se lancerait de même ou serait moins pressé, serait aussi bonne.
Oui, donc,
c'était comme ça quand j'étais plus jeune. En tout cas, c'est le sentiment que l'impression que j'avais.
Où le temps de la réception des livres était plus lent, plus mûr, plus réel aussi, peut-être.
Où on écrivait beaucoup pour des amis, des maîtres, des proches, et puis ensuite venait parfois la réception du livre plus largement, mais c'était moins une obligation et c'était moins une pression de la part des éditeurs, me semble-t-il.
Là, la pression, vous l'aviez peut-être, Luc Boltanski, côté sociologique, dans les institutions d'enseignement supérieur, maintenant, même à l'EHESS, il faut publier pour exister, mais du côté poétique,
ah
vous
non,
n'avez jamais eu de pression.
Ça,
c'est
pression.
Vous publiez selon un rythme particulier, vous écrivez pour publier, en tout cas pour être lu. C'est une poésie qui n'est pas seulement intime, qui est aussi faite pour être lue.
Je ne crois pas à l'écriture purement intime.
Et dans l'espace social.
J'avais travaillé autrefois beaucoup sur le journal d'Amiel, qui est un des plus copieux qui existe. Je crois que c'est 30 000 pages, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il l'écrivait pour être lu.
Et au fond, avant de citer l'un de vos poèmes sur l'amour, dans ce magnifique recueil intitulé « 61 adresses, 9 destinataires », 9 destinataires amoureuses, il y a aussi d'ailleurs une distribution selon les 12 mois de l'année, il y a beaucoup de calculs et de jeux sur les chiffres, 61 sonnets, 9 destinataires, 61 sonnets chacun avec l'adresse d'un lieu parisien. Avant de vous lire, en vous écoutant, je me disais, la sociologie d'un côté, le poème de l'autre, disons, sont à la fois des gens d'écriture très différents. Ils ont peut-être un point commun, justement, par rapport à ce qu'on disait, c'est d'être un peu considérés comme des genres mineurs, d'être un peu marginaux,
oui,
aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. Je dis quelquefois que j'ai choisi les deux mauvaises voies. Effectivement, la poésie qui était nettement beaucoup plus lue, je pense, il y a une quarantaine d'années, dans les années 60-70 encore. Et puis la sociologie dont je ne veux dire que du bien, étant donné les nombreux périls qu'elle affronte aujourd'hui.
Mais oui, et finalement, c'est toujours les disciplines où les paroles un peu minorées, disons, ont toujours leurs paroles majorées à côté. La sociologie, c'est un peu l'économie qui l'écrase un petit peu, Luc Boltanski, en ce moment. Entre autres discours, qui ont pignon sur rue. Je me souviens que dans le débat avec les intellectuels qui a eu lieu à l'Élysée, au printemps 2019, tout récemment, vous aviez proposé qu'il y ait, à l'instar d'un conseil d'analyse économique, un conseil d'analyse sociologique. Et j'ai senti, et je parle plutôt des collègues économistes autour de la table, un rire un peu condescendant à l'égard de cette proposition qui, pourtant, je trouve, pour comprendre ce qui se passe en France, un conseil d'analyse sociologique est au moins aussi important que n'importe quel autre.
Oui, il y avait autrefois le conseil économique et social qui était plutôt un conseil de représentation de représentants de la société civile, mais qui était censé jouer ce rôle. Et aujourd'hui, et ensuite, il y a eu le plan. Il y a eu le plan a énormément travaillé.
Avec des sociologues?
Avec des sociologues jusqu'aux années 70. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui tient vraiment ce rôle.
Pourquoi est-ce qu'on méprise aussi ces paroles, Luc Bolton, en vous écoutant, encore une fois, avant même d'entrer dans la question de l'amour et à la fois vos poèmes et vos analyses, il y a un point commun dans votre pratique, c'est que finalement vous pratiquez une sociologie qui passe par la parole, qui analyse les discours des acteurs sur leur pratique. Au fond, sur l'amour, c'est beaucoup ce que vous faites aussi, analyser la façon dont l'amour est invoqué dans des pratiques sociales, peut motiver des pratiques sociales. Est-ce que c'est ce rapport à la parole aussi qui est central pour vous entre poème et sociologie ou pas spécialement?
Je ne sais pas. La sociologie que je pratique, si vous voulez, elle a comme base que nous pratiquons, on est un certain nombre, que on doit se détacher du positivisme, ce qui ne veut pas dire ne pas utiliser des méthodes scientifiques, y compris quantitatives, mais se détacher du positivisme et se rapprocher de la linguistique, parce que ce que l'on étudie est fabriqué par les êtres humains eux-mêmes. Et donc, que ce que nous faisons est la science d'une science. Et en quelque sorte, la réflexivité, la relation réflexive à un savoir qui est un savoir pratique, comme celui que nous avons de la langue, et que nous devons l'amener à être plus réflexif, y compris d'ailleurs pour que les personnes puissent mieux le maîtriser.
Quand vous dites la science d'une science, c'est que les acteurs eux-mêmes savent des choses sur ce qu'ils font, ils les disent, et le rôle du sociologue, c'est d'analyser de manière critique ce discours spontané.
Si vous voulez, il y a deux positions, au fond, à la base de la sociologie. Il y a une position bienveillante, si je puis dire, qui consiste à dire l'homme est social, tout est social. L'homme est altruiste, chacun est en naissant tombe dans la socialité. Et je suis un peu en désaccord avec cette position, pas du tout par méchanceté, mais parce que je me dis qu'il n'y a plus rien à comprendre une fois qu'on a dit ça.
Oui, puis parce que vous constatez des conflits aussi.
Exactement. Et je pense qu'il est plus intéressant de partir d'une position, je dirais, hobbesienne, en considérant que
une sorte d'état social comme
étrange.
Conflit généralisé, en tout cas possible.
Le grand problème, c'est de faire une société avec des êtres tels que les êtres humains. Que c'est vraiment un problème très difficile, et que les êtres humains ont inventé eux-mêmes des tas de dispositifs qui marchent ou qui ne marchent pas, pour faire société avec ce qu'ils sont.
Oui, mais alors ça rejoint, il y a plusieurs sens, Luc Boltanski, que vous donnez au mot critique, par exemple, en sociologie. Vous dites, vous faites une sociologie critique, donc c'est une sociologie qui passe par la critique comme activité sociale, il y a du conflit, mais il y a aussi, vous faites une analyse des discours et vous cherchez les motivations, le second degré, finalement, des actions humaines qui se justifient déjà spontanément, mais vous analysez ces justifications que les acteurs donnent à leurs actions et à leurs conflits.
Je prends appui sur la notion de grammaire. J'ai un frère linguiste, et donc j'avais lu autrefois un peu Chomsky. Maintenant, la linguistique est devenue tellement technique que c'est difficile d'entrer dedans. Mais avec comme idée que plutôt que des cultures, les personnes ont des orientations grammaticales communes pour s'interpréter et pour communiquer et pour juger.
Des grilles,
elles
des
ont
prismes.
Des cultures du jugement, des grammaires du jugement. Et qu'une des tâches de la sociologie, c'est un peu comme la linguistique, mais à plat des grammaires, pour en voir les contradictions notamment. Une des tâches de la sociologie, c'est de clarifier ces grammaires du jugement qui sont à l'œuvre dans la vie quotidienne. C'était la base du travail fait avec Laurent Thévenot autour de la justification.
Que vous aviez appelé les économies de la grandeur, oui, c'est-à-dire au fond comment il y a des systèmes cohérents d'évaluation que les acteurs sociaux projettent sur leur monde.
Tout à fait.
Et qu'au fond le rôle de la sociologie, c'est justement de faire apparaître ces cohérences secrètes de nos actions sociales.
De rendre... de modéliser, et par là de rendre plus maîtrisables ces langages communs et ces grammaires communes, et du même coup, peut-être, de mieux protéger ce à quoi l'on tient.
Et le politique en a besoin, Luc Boltanski, parce qu'au lieu de le traiter de manière un peu condescendante, parce que si on ne comprend pas les systèmes des jugements des uns et des autres, oui, et leurs conflits possibles, oui, on ne peut pas comprendre les actions et oui, les conflits dans nos sociétés.
Oui, je le crois tout à fait. Et bien évidemment, si vous voulez, une société contient à peu près autant de conflits qu'il y a d'êtres humains dans cette société.
Mais aussi peut-être autant de relations et de ressources pour y échapper. Alors, curieusement, Luc Boltanski, je voulais commencer par le poème et on va commencer par la sociologie. Dans votre grand livre, encore une fois, « L'amour et la justice comme compétence », dont le titre déjà renvoie à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est finalement l'amour comme non pas relation affective immédiate, charnelle, mais comme système de justification d'action, comme invoqué par des acteurs sociaux. Vous montrez justement que on peut sortir des conflits, il y a plusieurs grammaires des conflits, et aussi du dépassement des conflits, et vous opposez la grammaire, disons, comme vous venez de dire, de la justice, et celle de l'amour, qui est une autre solution pour vous que les humains ont trouvée pour dépasser le conflit, Luc Boltanski.
Oui.
Il me semble, que je résume un peu sommairement.
Oui. Si vous voulez, la notion de centrale de la justice, c'est celle d'équivalence.
Voilà.
C'est que, particulièrement, ce qu'on appelle la justice distributive. Si vous dites... vous êtes dans un laboratoire, par exemple, vous dites « c'est honteux, il y a des nouveaux ordinateurs, on m'a donné celui qui a le moins de mémoire, et on a donné le plus gros au patron. »
Vous prenez vraiment un exemple de chercheur en sciences sociales,
voilà,
dans un labo de l'UHESS.
Qui n'y connaît rien, parce que c'est lui qui est le plus connu. Eh bien, vous avez un problème de justice distributive. La justice étant toujours une égalité, mais une égalité en fonction... de critères de grandeur des différentes
d'une proportion,
personnes, de proportion.
À chacun selon
son mérite.
Son mérite,
ou, chose,
ou, mailleur, ça, ou malheureusement, ou d'autres, parfois...
D'égalité proportionnelle.
Selon sa force, selon
et donc,
son...
Et donc, pour réaliser des opérations de ce genre, et même pour concevoir une égalité de ce type, il faut construire des principes d'équivalence. On va vous dire, ils sont plus grands ou moins grands, sous quel rapport ?
Exactement.
Sous quel rapport ? Et un autre exemple qui est fréquent dans notre milieu, c'est vous avez un livre, par exemple. Quelqu'un dira, ce livre, il a fait un bon coup, ça s'est très bien vendu. Nous dira, bah oui, mais c'est pas pour autant que c'est un bon livre, c'est très mal écrit.
Enfin, il y a deux systèmes de jugement différents.
Donc, vous avez des dimensions de la personne humaine qui sont très différentes et qui vont amener des modes de jugement très différents. Et donc, nous avons analysé les grammaires qui soutiennent le passage de ces genres de jugement à un autre. Et cela repose toujours sur la construction d'équivalences qui sont extérieures aux personnes.
Ça, c'est du point de vue de la justice.
De la justice.
Luc Boltanski, donc, par exemple, s'il y a un conflit, on établit des ordres de grandeur extérieurs aux personnes, et c'est déjà une manière de sortir de la guerre. C'est déjà une manière
C'est une manière de sortir du rapport de force,
voilà.
Du pur rapport de force, ou de la violence, dans laquelle c'est toute la puissance dont peut disposer chacun des êtres en conflit avec l'autre qui va décider de l'issue de la confrontation.
Alors que dans la justice...
Alors que dans la justice, vous allez avoir d'abord un arrêt, ce qui est très important, tandis que dans le cas de la violence, elle peut toujours reprendre, et vous allez avoir un arrêt qui va reposer sur des principes de grammaire, qui prennent des formes de loi, de droit, etc., en principe reconnus dans un certain espace.
Alors, Luc Boltanski, dans l'amour et la justice comme compétence, donc vous montriez déjà comment la justice peut organiser des valeurs communes, finalement des grandeurs communes, une commensurabilité, et donc un accord qui permet de sortir de la pure force. Mais ce que vous disiez, c'est que, et vous ne l'inventiez pas au nom d'une morale a priori, mais vous disiez, dans les pratiques sociales, il y a aussi un besoin, finalement, d'autre chose, quelque chose qui va au-delà de la justice, et c'est là que vous rencontriez la question de l'amour. C'était très inattendu qu'un sociologue se saisisse de l'amour comme objet, comme dans le discours social.
Il n'est pas dans le discours.
Pas dans le discours. C'est pas une justification explicite, vous dites.
C'est pas une justification. C'est au-delà de... Et bien sûr que c'est générateur de quantité de discours. La plupart de nos romans, de nos chansons, parlent de l'amour. Mais l'amour n'est pas invoqué comme principe d'ordre à la façon dont va l'être la justice. Je dirais que sous le rapport d'une politique, puisque la justice fait partie de la politique, l'amour, la référence à l'amour... Mmh. Est la source de la critique.
La source cachée.
La source cachée de la critique. Parce que ce qui caractérise l'amour par rapport à la justice, c'est le rejet des équivalences.
C'est qu'on dit qu'il y a quelque chose de plus en toi que le critère extérieur par lequel je vais te juger.
C'est ça, Frédéric Worms. Je dis quelquefois en blaguant que dans un couple, quand il y en a un qui commence à dire à l'autre « Oui, mais écoute, c'est moi tous les soirs qui fais la vaisselle », alors qu'on avait dit que ça serait un jour sur deux, oui, mais moi, en échange, je retourne le jardin, c'est qu'il commence à y avoir chaud dans le gaz.
C'est mauvais signe.
C'est qu'il commence à...
Quand on commence à compter un peu, à répartir les choses avec un principe de justice, c'est qu'on est...
Alors que, parce qu'on crée une équivalence entre l'attachement à l'autre et un certain nombre de pratiques qui pourraient être codifiées. Mmh. Alors que ce qui caractérise le monde de l'amour... C'est un rejet ou une distance, c'est un travail à faire, une distance à l'égard de tous les instruments qui permettent de faire équivalence et donc par conséquent à l'égard du calcul. Mmh. Au fond, si vous voulez, les personnes en situation d'amour ou en état d'amour
Ce sont des idiots.
Ce sont des idiots. Oui. Ce sont des idiots.
Au sens très noble du terme, au sens merveilleux du terme.
Vous savez, il y a trois traditions d'idiots dans la littérature mondiale. Il y a la littérature russe,
oui.
Avec l'exemple évidemment le plus célèbre de Dostoïevski. Il y a la littérature italienne qui prend appui sur les Fioretti de Saint-François, en fait. Et puis
que vous citez dans votre livre, auquel vous consacrez un chapitre.
Et puis j'ai lu qu'il y avait des équivalents dans des littératures d'inspiration bouddhiste, notamment au Japon. Et donc l'idiot, c'est celui qui ne calcule pas,
qui est dans la naïveté,
qui n'attend pas de retour,
une simplicité,
qui est dans le présent, qui est là. Qui est dans la singularité de la relation avec l'autre et qui réalise, au fond, pratiquement, un principe radical de commune humanité. Mmh. Et évidemment, si vous voulez, ce principe de commune humanité qui inspire un grand nombre de constitutions politiques modernes, ce qui est très bien, est rarement mis en pratique. Et quand, dans certaines occasions... Ce principe de commune humanité est trop fortement transgressée. Je pense, par exemple, à la crise des migrants, par exemple.
Oui.
Cela quand fait beaucoup de mal.
Quand il n'y a plus des idiots, des gens très simples qui disent ça ne va pas ou.
Cela fait beaucoup de mal
à la société
dans laquelle cela se passe. Parce que même si on ne le réalise pas, il faut qu'on puisse quand même continuer à y croire tant soit peu.
Mais alors, Luc Boltanski, ce qui est surprenant dans ce que vous dites, c'est moins le fond, cette idée très belle et très forte de cette définition de l'amour. Au fond, qui rejoint effectivement des très belles des analyses qu'on trouve chez des philosophes. Je pense à Jean Kelevitch en vous écoutant, qui dit aussi dès qu'on parle de l'amour, c'est qu'il est mort. Au fond, dès qu'on commence à dire je t'aime, c'est pour obtenir quelque chose, c'est qu'on n'aime plus justement. Et l'idiot est aussi ne parle pas les amoureux ne parlent pas de l'amour comme le vrai héros ne parle pas de l'héroïsme. Mais alors du coup, il y a un paradoxe, Luc Boltanski, c'est que vous en faites quand même. Une sociologie, c'est peut-être pas par le discours explicite, puisqu'il est aussitôt loin de l'amour, mais quand même vous le cherchez dans des actions sociales, vous ne le cherchez pas seulement dans une intimité affective.
J'en fais une sociologie négative, si je puis dire, comme on parle de théologie négative.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire en prenant un certain nombre de situations et en regardant la façon dont elles sont traitées depuis des schémas qui mettent tout l'accent sur l'intérêt ou sur le calcul ou sur l'intérêt personnel. Et on voit bien que ça ne marche pas.
C'est ce qui déborde l'économique, la justice étant finalement incluse, malgré tout, à travers ces calculs, dans l'économique au sens large.
Exactement. On voit bien que dans un univers qui serait effectivement construit sur le mode, disons, de l'individualisme méthodologique, ou sur le mode de la critique bourdieusienne, ou sur qui est fondée aussi sur l'idée d'intérêt, hein, y compris l'intérêt au désintéressement chez Bourdieu. Eh bien, on voit bien que dans un monde comme tel que celui-là, la vie deviendrait impossible. On ne pourrait plus vivre.
Alors là, vous citez même Luc Boltanski, des sociologues qu'on considère comme critiques, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur le capitalisme. Vous avez écrit avec F. Capello le nouvel esprit du capitalisme. Vous avez travaillé sur l'économie de la richesse contemporaine, la valeur de l'art, par exemple, qui est sur un marché contemporain. Donc au fond, là, on découvre un point d'unité de tout votre travail. C'est de dire il faut étudier les justifications économiques, le système du marché, etc. Mais il y a un au-delà. Il y a un au-delà et le mot amour peut désigner un petit peu cet au-delà et il faut cet au-delà sinon on est dans une société terrible, même si des sociologues critiques continuent à critiquer l'économie mais avec des concepts économiques, l'intérêt ou la raison même.
Je dirais que c'est un à côté.
Ah, c'est pas un au-delà, c'est un à côté.
Je dirais que c'est un à côté parce que c'est là. Parce que c'est là.
L'au-delà, ça voudrait dire qu'il faudrait aller le chercher dans une transcendance.
L'au-delà, ça voudrait dire que c'est un idéal. Ça devient un au-delà quand ça sert de base à la critique, par exemple, de l'ordre existant dominé par l'économie. Là, ça devient un au-delà, comme tout idéal. Mais dans la vie quotidienne, c'est un en-deçà. C'est un à-côté ou un en-deçà, c'est là. Mais c'est là sans qu'on le dise. C'est même, effectivement, comme vous l'avez très bien noté, Frédéric Worms... Dès qu'on en parle, c'est fini. Dès qu'on en parle, c'était la même chose que le paradoxe du don. Lorsque vous dites « tu vois comme je te donne
oui. »,
tu vois le plaisir que j'ai à te donner.
Quand on souligne avec insistance comme ça.
À ce moment-là, évidemment, toute l'efficacité du don disparaît.
On ne peut pas en parler, mais peut-être qu'on peut le chanter. Vous nous avez proposé évidemment une chanson d'amour pour jalonner cette conversation. Et où d'ailleurs, il y a un effet de... un peu de transcendance apparente. On va pas dévoiler encore de quoi il s'agit, mais avec une personne à côté et pas au-delà, effectivement. Oui.
De plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdu aux jours, aux semaines. Sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère. Deux bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste en dormant, léger qui me frôle. Un souffle posé, moins une rosée contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Et nos amours, une série de 5 rencontres. Nous reprenons le fil de la première de celle-ci avec Luc Boltanski, très connu comme sociologue, un peu moins connu comme poète, qui vient de nous proposer, pour jalonner cette conversation, la chanson d'un grand poète. Malgré tout, Luc Boltanski, Aragon, oui. Il n'aurait fallu, c'est une chanson d'amour, une chanson de renaissance par l'amour, un petit peu. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, Luc Boltanski, un amour latéral, une personne à côté de moi.
C'est une chanson sur la proximité. Un des problèmes de l'amour, c'est que ça n'existe que dans le singulier. Donc ça n'existe que dans le proche. Ça nécessite un monde dans lequel on peut sans arrêt corriger ce que l'on fait. On fait une parole un peu vive, et puis on donne une petite caresse avec la main.
Pour pouvoir communiquer concrètement.
On peut communiquer concrètement avec d'autres. Et donc, où on ajuste. Si vous voulez, je vais vous donner encore un exemple très très concret qui est pas vraiment un exemple d'amour, mais un petit peu. Des amis qu'on fait une soirée et puis on dit bon, on va faire la vaisselle ensemble. Et puis évidemment, comme toujours dans ces cas-là, l'un évier c'est petit, il y en a un qui se met à faire la vaisselle, puis d'autres qui font semblant d'essuyer.
Un peu moins, voilà, qui aide en regardant.
Voilà. Et puis qui continue à se bécoter dans un coin discuter. Mais on ne fait pas intervenir la question de la justice. Si quelqu'un dit « ça n'est pas juste, c'est lui qui fait la vaisselle et pas les autres », à ce moment-là, ça casse complètement la situation. Donc il y a tout un travail en commun qui se fait par des tas de petits signes, par des tas de petits gestes, par des corrections permanentes,
implicites, qui
permet à l'amour, malgré tout, pendant ici et maintenant, pour une certaine durée dans un certain lieu, de se maintenir. Et le problème, c'est que on ne fait pas une société avec ça, parce qu'une société, ça se fait à distance.
Ça implique des règles un peu plus établies, un peu moins impalpables.
Dès que vous devez transporter quelque chose, il faut bien le codifier. Il faut bien l'inscrire dans des règles, il faut l'inscrire dans des phrases. Vous ne pouvez plus faire cette correction.
Est-ce que c'est vraiment la distance le problème, Luc Boltanski? On peut s'aimer à distance, on peut avoir des liens malgré tout de proximité, même si elle n'est pas immédiate et corporelle. Est-ce que le problème n'est pas plutôt justement dans la règle, qui peut aussi venir régler le rapport entre deux corps très proches physiquement, mais dès qu'on la fait intervenir, alors c'est effectivement une distance, mais pas seulement spatiale, c'est une distance d'abord dans la relation elle-même. C'est-à-dire je te mets à distance en considérant que mes rapports sont réglés par une loi et non pas par nos échanges de visage ou de regard ou d'accent.
Oui, Frédéric Worms, vous avez raison. Vous avez raison.
Et c'est pas la distance spatiale, en fait. C'est la distance sociale, justement.
C'est le transport. C'est d'avoir quelque chose au-dessus des personnes qui puisse être invoqué pour elles ou contre elles et qui rende possible un transport. Évidemment, si vous voulez, l'opération de la justice est tout à fait nécessaire, notamment parce que dans la proximité, vous avez toujours un risque extrêmement fort qui est celui de la domination personnelle. Et bien évidemment, une des façons dont les sciences sociales ont critiqué l'amour a été de montrer, souvent à juste titre, toutes les puissances de domination personnelle
au nom de l'amour ou
qui était réalisé au nom de l'amour.
Mais ce qui m'a surpris, Luc Boltanski, dans ce que vous disiez il y a un instant, c'est que vous invoquiez l'amitié au même titre que l'amour. Dans votre livre, L'amour et la justice comme compétence, dont on parlait tout à l'heure, et ensuite on reviendra aussi à vos poèmes, vous disiez, il y a trois sortes d'amour dans ce livre. Il y a l'amitié, justement, il y a l'éros, qui, reprenant le modèle de Platon, juge selon des valeurs, selon le beau, l'aimable en soi, donc ça, de nouveau une norme extérieure. Et puis là, il y a le vrai amour qui vient justement sans critères. Mais pour vous, dans ce livre-là, l'amitié était du côté du calcul, un petit peu, de la réciprocité.
Oui, mais dans ces scènes auxquelles je faisais référence, On n'est pas dans l'amitié. L'amitié, elle est dans la longueur. Chez Aristote, comme vous le savez bien mieux que moi, l'amitié, c'est la philia qui unit aussi, qui est aussi un lien politique.
Bien sûr.
Qui va unir des cités et qui va entraîner des cycles de réciprocité. Tandis que vous avez des tas d'occasions de relations entre des humains. Ça peut être avec trois personnes rencontrées dans un bistrot, autour d'un bar. Autour d'un bar, vous avez des grands moments de...
Oui, mais même chez Aristote, la réciprocité des amis, par exemple dans une conversation, c'est vrai qu'il y a réciprocité, il faut que les amis soient des égaux, mais en même temps, ils ne passent pas par une règle explicite, c'est une amitié sans... une réciprocité sans règle, une réciprocité spontanée et implicite.
C'est juste.
C'est-à-dire, si tu m'invites à dîner, ben oui, je vais t'inviter à dîner aussi. Personne ne m'y oblige vraiment, je ne vais pas invoquer la loi de rendre une invitation. Mais si je ne le fais pas, quand même... voilà.
Oui, mais si vous voulez... Il y a des amitiés raisonnables et des amitiés déraisonnables, si je puis dire. Il y a un sociologue américain que j'aimais beaucoup, qui est mort récemment, qui s'appelait Alan Silver, qui a écrit de très belles choses sur l'amitié, où il montre que l'idéal d'amitié comme désintéressement est né quand, au 18e, après les théories d'Adam Smith et les théories de la construction d'un ordre politique, précisément sur la base d'un calcul économique.
Une sympathie qui était conçue comme calcul, là, justement, exactement. Dans mon intérêt.
Mais vous avez des tas de relations qui sont non qualifiées.
Oui.
Et au fond, l'amour comme à côté, c'est laisser la place à des relations non qualifiées. C'est laisser la place au flou. Je vais dire quelque chose d'horrible.
Allez-y,
étant donné
le caractère extrêmement injuste du
monde dans lequel on vit. Un monde qui serait entièrement régi par la justice pourrait devenir un monde épouvantable. D'une rigidité et d'une cruauté extrêmement forte.
Alors, je rappelle, pour ceux qui n'avaient pas entendu ce que vous aviez dit avant, que quand même la justice vient régler déjà bien pire qu'elle, qui est le rapport de force,
nécessaire.
La violence. Et donc, c'est vrai que la justice, si tout devait passer par la justice, ce serait invivable, tout simplement.
Parce qu'il faut laisser des zones de flou. Je vais vous donner un exemple qui vient du nouvel esprit du capitalisme, ce livre écrit à partir d'une analyse des manuels de management. Vous avez eu tout un ensemble de nouvelles techniques de management dans les années 80-90 qu'on appelle souvent re-engineering et qui ont consisté au fond à amener les personnes à s'auto-contrôler et à rendre visible tout ce qui se passait dans l'atelier. Et jusque-là, et notamment en se fondant sur le zéro stock.
Donc plus d'intimité,
sur le fait qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de pièces,
d'invisible, tout est transparent.
Tout est transparent. C'était affreux parce que jusque-là, les copains qui voyaient arriver un copain qui avait un peu trop bu la veille, bon ben, il faisait pas toutes ses pièces, on allait chercher des pièces dans des réserves un peu dissimulées. Du jour où tout est transparent, c'est plus juste.
Bien sûr.
Mais c'est invivable.
Évidemment,
les deux sont vrais, si vous voulez. Je pense que c'est un problème central dans la vie actuelle, que ressentent encore plus fortement les femmes que les hommes, à mon avis. C'est que la règle est absolument nécessaire, le recours à la justice est absolument nécessaire, l'intimité est un lieu très souvent d'abus. Et en même temps, un univers qui serait complètement réglé serait tout à fait invivable.
Alors vous dites que ça concerne les femmes plus que les hommes. On pourrait vous opposer vous-même à vous-même, puisque à la fois dans vos livres de sociologie et dans vos poèmes, vous décrivez parfaitement cette intimité, cet au-delà, ce flou qui peut être traversé par de la violence, bien sûr, Luc Boltanski. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler d'amour? S'il y a de la violence, ça devient de la haine. L'amour peut se retourner dans son contraire. Mais est-ce que l'intimité amoureuse elle-même peut être violente en restant amoureuse? C'est qu'elle se trahit, c'est que l'amour, justement, nos amours sont aussi traversés par leur contraire, ne sont pas des amours absolument purs et sans contraire.
La joie venait toujours après la peine.
Voilà. Et la joie vient après la peine et peut venir aussi après des ruptures. Ce qui fait nos amours aussi dans ce pluriel, c'est à la fois chacun sans doute avec sa part de transcendance, mais latérale sur le côté. C'est aussi le rythme de vos poèmes dans ce recueil, illustré par votre frère Christian, celui-là, pas le linguiste, mais le plasticien, l'artiste, Christian Boltanski. Donc là, 61 adresses, 9 destinataires. Ces 9 destinataires, il y a eu visiblement des départs, des ruptures. Les derniers poèmes sont aussi sur ces ruptures. Je cite un passage du tout dernier qui fait penser au poème d'Aragon aussi sur le thème du revivre, de la renaissance. Donc c'est rue d'Aubenton. Donc, puisque chacun des poèmes est une rue parisienne, je ne t'ai pas su renaissante, car ce qui ne peut mourir ne peut revivre. Sponsa solis, fiancé du soleil, vous traduisez vous-même, qui n'est pas phénix, mais simplement être. Et malheureusement, je saute vers la fin. Et c'est pourquoi, quoiqu'au seuil du départ, je cherche toujours embrasé le chiffre de ta signature dans les plis d'un drap, l'ambre d'un regard et l'or d'une voix, sachant que les étoiles, amour, ton choisi. Un poème de Luc Boltanski que je trouve magnifique parmi beaucoup d'autres de ce recueil. Mais Luc Boltanski, quand vous écrivez ça, il y a à la fois quelque chose d'un absolu. Ce qui ne peut mourir ne peut revivre. Donc, c'est même pas le phénix. L'amour a quelque chose d'immortel. Et en même temps, il y a nos amours très concrètes. Une mélancolie aussi.
Oui. C'est ce qui, vous savez, je pense que c'est pareil pour vous. Frédéric Worms, parce que c'est...
Comment le savez-vous? Vous avez tout à fait raison.
Vous. Parce que je pense que sans ça, vous
comment l'avez-vous
pas,
deviné, plutôt?
Nous ne serions pas si complices dans cette discussion. C'est ce qui compte le plus dans nos vies. Et que l'amour est toujours menacé par l'échec. Et que quand on y réfléchit, on essaie toujours de se consoler en se disant que l'échec vient de l'extérieur. Que c'est parce que on avait des désaccords politiques ou parce qu'on avait des désaccords philosophiques.
Justement, de l'ordre de la justice. On n'était pas d'accord, justement. On avait un désaccord, ce qui déjà est d'un autre ordre.
Et ça laisse en suspens la question peut-être trop dure pour les pauvres humains que nous sommes, du rôle joué par la découverte, la surprise dans l'amour.
Mais est-ce que, Luc Boltanski, est-ce que c'est si grave? Je me dirais presque le contraire, c'est-à-dire que le contraire de l'amour, ça n'est pas seulement les autres ordres. La justice, ce qu'on cherche à invoquer, un désaccord, bon, on n'était pas d'accord, donc on a rompu, mais là c'est vrai que l'amour ne rompt pas de cette façon-là. Est-ce que justement, le propre de l'amour, c'est de ne pas avoir aussi sa propre négativité, c'est-à-dire son propre contraire? Sinon, d'ailleurs, comment serait-il lui-même un bien s'il n'avait pas son mal?
Il est toujours borné par la mort. C'est pour ça aussi
vous diriez la mort,
que le poème d'Aragon est tellement intéressant.
C'est la mort plus que la haine? C'est la mort plus que la guerre?
Je ne crois pas la haine. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'ai... Je ne crois pas que l'amour fasse couple avec la haine. Parce que je pense que je connais mal la haine sous le rapport d'un... Je la connais certainement personnellement comme
social.
Tout le monde. Mais en tant que sociologue, je la connais mal. C'était Rouen Ogien qui avait travaillé sur la haine. Mais je pense que la haine demande tout à fait d'autres moyens et notamment est beaucoup plus réflexive. a beaucoup plus besoin de catégories.
Tout ce qui est négatif et réflexif.
D'exemples historiques, de théories du complot. Mmh. Si vous, au fond, je l'ai rencontré le plus dans mon travail quand j'ai écrit Énigmes et complots, en reprenant les très nombreuses théories du complot, et notamment antisémites.
Donc la haine se justifie sans fin, alors que l'amour n'a même pas besoin de se justifier. C'est ce que vous disiez.
La haine,
avec la simplicité de l'idiot amoureux. Oui.
Absolument, Frédéric Worms. Quelque chose de classique dans les études qui ont porté sur les responsables de grands génocides, par exemple, c'est qu'ils sont toujours présentés comme, ils se présentent toujours comme des victimes. Et ils se justifient en tant que victimes. Tandis que, bien évidemment, l'amour, comme la rose, est sans raison, comme vous savez.
Elle est sans pourquoi, mais...
Elle est sans pourquoi, pardon.
Sans raison, mais malgré tout, elle doit quand même s'exprimer, Luc Boltanski, dans cette à côté ou cet au-delà du langage du calcul ou de la justification. En sociologie, vous décrivez comment ça intervient malgré tout dans le monde social. Et votre recours au poème, est-ce que ça n'est pas justement une façon de dire il y a une autre parole que la justification et il faut lui donner sa place dans le monde? On peut revenir au début de notre conversation. Un monde où il n'y aurait plus de poème, c'est un monde où l'amour n'aurait plus la parole.
Je ne sais pas. Je ressens très fortement la différence entre l'écriture des sciences sociales et l'écriture de la poésie. Je n'ai jamais voulu faire une écriture des sciences sociales tant soit peu élégante, ou entre guillemets poétique. Je pense que les sciences sociales, si elles veulent être quelque chose comme des sciences, même en décalage avec le positivisme classique, doivent rester aussi précises,
conceptuelles, rigoureuses,
conceptuelles. Et quand j'écris des sciences sociales, j'ai toujours mon Robert à côté. Je cherche des synonymes, cherchant le plus précis.
Le mot juste. Justement, toujours la justice.
Quand j'écris de la poésie, si un mot vient à la place d'un autre, il est le bienvenu, évidemment.
Vous l'accueillez.
Je l'accueille.
Mais justement, ça prouve bien que la poésie est du même côté de cet au-delà de la justice.
Et la langue se découvre elle-même de telle sorte que le travail de la poésie consiste d'une certaine façon à pousser la langue aux limites de l'intraduisible, puisque l'arbitraire du signe disparaît avec l'importance liée aux sons, aux assonances, etc. Le rythme joue un rôle central, et les mots viennent se placer d'eux-mêmes là où ils doivent. Donc, si vous voulez, c'est deux activités, c'est un changement d'outil, comme disent les gens du management, très important.
Oui, mais on voit bien en même temps, Luc Boltanski, si vous me le permettez, la cohérence, parce que votre sociologie laisse une place à ce qui la dépasse, et donc au poème qui lui-même répond un peu quand même à ce que décrit le sociologue.
On pourrait dire qu'au lieu de taire ce qui ne peut pas se dire, j'essaie de le dire comme ça.
Pour terminer, je ne résiste pas, le temps passe trop vite, mais je vais citer un autre très beau poème de 61 adresses, 9 destinataires. Il s'intitule « Jardin du Luxembourg ». Le premier amour pleure au Luxembourg. L'arme réalise son inexistence. C'est l'après-midi et il pleure. Depuis, le matin, au printemps et sous la pluie. Malheureusement aussi, je passe au dernier tercet. C'est ces deux derniers vers que je trouve magnifiques. Un cœur sachant ce que finir veut dire, pour la première fois doté d'un passé. Un cœur sachant ce que finir veut dire. Malheureusement, Luc Boltanski, on doit finir aussi. Merci infiniment à vous.
C'est moi qui vous remercie. Je vais beaucoup réfléchir à notre entretien.
Moi aussi, merci à vous.
Merci.
Matière à penser et nos amours. Une première rencontre sur ce thème avec et grâce à Luc Boltanski, avec aussi Alain Joubert, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms qui vous donne rendez-vous demain pour une autre rencontre sur ce même thème.